En tout cas, merci, merci infiniment d'être venu, voire même revenu aussi nombreux. Pour d'ailleurs, entre parenthèses, quels sont celles et ceux qui viennent pour la première fois dans le cadre de ce cycle? Très bien, ben, bienvenue et merci aux autres pour leur assiduité. Donc pour cette deuxième séance d'un cycle qui va nous conduire jusqu'en octobre avec une escale au mois de juin, je rappelle à ceux qui n'étaient pas parmi nous la fois dernière que nous avons commencé ce cycle sur la ville de demain par une intervention de Jacques Lévy, le géographe, avec lequel on a qui s'est livré un véritable tour du monde pour nous faire prendre conscience de ce qu'il appelle la renaissance urbaine. Nous assisterions selon lui, effectivement, à une renaissance urbaine, donc à un retour du balancier, en quelque sorte, par rapport au phénomène de périurbanisation qui, dit-on, a largement contribué à déformer le paysage urbain. Or, quelque chose me dit que, sans vouloir orienter la réception de l'intervention de ce soir, que nous allons peut-être partir d'un diagnostic similaire relativement à la périurbanisation, mais à des conclusions différentes, puisque l'intervenant de ce soir va nous montrer finalement que cette périurbanisation participe d'un mouvement de fond qui a contribué à changer radicalement notre rapport au territoire, au AUX, territoire avec un S par conséquent. Nous n'appartenons plus, faut-il le rappeler, et c'est une évidence, mais une évidence qu'il faut rappeler, nous n'appartenons plus à un seul territoire, mais à plusieurs territoires du fait de la multiplicité des activités auxquelles nous nous livrons. L'intervenant de ce soir va donc nous décrire, nous rendre compte de cette tendance, non sans soulever la question de savoir quelles en sont les implications en termes de gouvernance. Avant de lui donner la parole, je rappelle que ce cycle de conférences est co-organisé par l'espace Mendes France, présidé par Mario Cotron, que je salue, il est au deuxième rang, et par le conseil de développement responsable, présidé par Jeanne Renaud, également présent dans la salle, et auquel je confierai le rôle de veilleur, de discutant. Alors pourquoi ? Parce que la fois dernière, j'ai été extrêmement impressionné par la qualité, le niveau des interrogations qui étaient les vôtres, illustration du fait, selon moi, que le grand public est très éclairé, plus éclairé qu'on le dit. Sauf que, à force de s'être mis au diapason de l'intervenant qui nous a finalement livré, qui s'est livré à une analyse dans une perspective internationale, nous en avons presque oublié l'agglomération de Poitiers, les questions portant plus sur la crise mondiale et puis sur les évolutions urbaines au plan international. Donc j'ai demandé à Jeanne Renaud d'intervenir au moment de la discussion avec la salle pour justement veiller à ce que l'intervention, à ce qu'on garde à l'esprit les préoccupations de l'agglomération poitevine. Eh bien voilà, j'aurai un certain nombre de remerciements à faire parce que tout ce cycle ne se fait pas sans de bonne volonté, qu'elles en soient remerciées et nommément, mais à l'issue de la conférence. Sans plus tarder, la parole à Martin Vanier. Je rappelle simplement que vous êtes géographe, que vous nous venez de Grenoble, puisque vous êtes de l'Institut de géographie alpine de Grenoble. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le pouvoir des territoires que je présenterai plus en détail à l'issue de la conférence. Sans plus tarder, je vous laisse une petite heure pour se livrer à cette exploration des multiterritorialités dans lesquelles nous nous inscrivons. Merci par avance.
Merci Sylvain Allemand. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil, merci de votre nombre. Merci à la ville de Poitiers, à l'agglomération de la communauté. Cité de l'image, de nous rappeler en passant que l'image est toujours un défi et qu'il y a parfois dans les installations de l'image des obstacles techniques à surmonter. Merci de m'avoir installé parmi les fleurs avec un assortiment aussi audacieux. Ça tombe bien, j'avais un passage sur la nature, donc je vais essayer de trouver une inspiration. Je viens vous parler d'un truc imprononçable
moi j'ai l'habitude, qui est l'interterritorialité. Et on s'amusera beaucoup lors des premières questions de la difficulté de prononciation que vous rencontrerez, puisque moi j'ai mis plusieurs mois à arriver à prononcer interterritorialité sans m'arrêter. Et je viens aussi vous parler d'un concept qui n'est pas si répandu qu'on puisse s'en servir pour un titre, qui est le tiers-espace, et qui sera ma façon à moi d'aborder la question périurbaine. Et parce que ces deux mots, interterritorialité et tiers-espace, ne sont pas si courants, et j'ai préféré intituler ce propos avec vous, « Habiter et gouverner la galaxie des territoires ». Je ne suis pas sûr que ça simplifie beaucoup l'approche, mais au moins il n'y a pas de mots magiques et de mots nouveaux dans cette phrase. Habiter, puis gouverner, parce que le propos de géographe que je vais vous tenir sera pour au moins 50% un propos de politiste, ou de citoyen, ou d'acteur de la vie publique. Autrement dit, je vais peut-être vous bousculer un peu sur l'exercice de la preuve selon laquelle nous habitons une galaxie de territoire, estimant que c'est quelque chose dont nous faisons tous l'expérience quotidienne, individuellement. On pourra en débattre si vous voulez, mais c'est pas de mon point de vue l'apport essentiel de ce que je voudrais vous présenter. Ce qui m'intéresse de vous présenter, et surtout à celles et ceux d'entre vous qui sont membres du Conseil de développement, c'est la réflexion politique sur les questions de gouvernement d'un territoire complexe, multiple, d'une galaxie de territoires, qui me semble interpeller à la fois les élus, les professionnels et les structures administratives, l'administration territoriale, elle s'appelle d'ailleurs pas l'administration interterritoriale, elle s'appelle l'administration territoriale, et les citoyens, bien entendu. Donc, si vous voulez bien, c'est plutôt sur la deuxième partie de l'exposé que je nous invite à nous concentrer, mais évidemment, pour gouverner la galaxie des territoires, il faut sans doute d'abord la raison, et installer la raison que nous y habitions. Alors, habiter la galaxie des territoires est une affirmation, une description, une proposition d'interprétation qui ne me semble pas poser de vrais problèmes de discussion dans la mesure où, premièrement, et je reviendrai sur mon plan pour que vous puissiez bien suivre, je veux fonder cette proposition sur le constat d'un monde mobile, de plus en plus mobile, et qui a accédé au cours du XXe siècle à l'ère de la vitesse. De sorte que un certain nombre de repères, d'installations, de rapports à l'espace dont nous avions hérité de génération en génération se sont considérablement brouillés pour aboutir à ce qu'on pourrait appeler une expérience plurielle des territoires. Et j'irai pas très très loin, mais je vous demanderai mentalement de réfléchir à votre journée, votre semaine, celle qui est derrière vous, celle qui est devant vous, et faire la liste des lieux que vous avez visités, fréquentés, ou que vous allez visiter et fréquenter. Imaginez la liste des parcours, et aussi par exemple la liste des vitesses. De votre vitesse piétonne à peut-être, pour celles et ceux qui sont amenés à voyager loin, celle de l'avion. Pour constater très rapidement avec moi que nous en avons fini avec un certain monde de la vitesse unique, une vitesse relativement lente, qui par conséquent produisait un monde cloisonné, un monde limité, celui de notre expérience possible d'un déplacement, qui à pied, qui en voiture, qui en train, mais de toute façon assez lentement. La mobilité, la vitesse, nous projette dans un espace de réseau, et ce sera mon deuxième point, la raison pour laquelle nous habitons une galaxie de territoires et non pas des territoires côte à côte, juxtaposés, coexistants, coextensifs, etc., c'est qu'ils sont branchés les uns sur les autres, et c'est que notre expérience de l'espace, et si tout ça est un peu abstrait, disons, notre géographicité, c'est-à-dire notre façon d'être des êtres géographiques, s'inscrit au moins autant, et peut-être davantage maintenant, dans des réseaux, plutôt que dans des aires, dans des surfaces, dans des périmètres, dans des clairières, on pourrait dire, dont nous sommes très fortement les héritiers, bien sûr, mais qui ne nous résument manifestement plus. Et par conséquent, ça m'amènera dans un troisième point à dire ce qu'il faut que nous arrivions à réaliser comme changement culturel lorsque nous pensons à notre pays, notre monde, notre environnement, notre cadre, notre milieu, bref, notre territoire, et comment il faut que nous parvenions à construire la fameuse question de la complexité. Alors, premier point, le monde lent est derrière nous, le monde de la vitesse unique est derrière nous, le monde des espaces finis, si tant est qu'il ait jamais existé, le 19e siècle était très mobile, est très loin derrière nous, et nous ne sommes sans doute qu'à l'orée d'une pratique des espaces. Pour nous, individus, entreprises, organisations, associations, je me réfère à toutes les catégories d'expériences sociales qui peuvent être les nôtres, les vacances, la famille, le travail, les voyages, les escapades, les nécessités professionnelles et autres, nos horizons se sont considérablement enrichis, diversifiés, étendus, et je ne peux pas m'empêcher de considérer cette réalité qui émerge progressivement au XXe siècle et s'affirme très fortement aujourd'hui comme une réalité plutôt positive, émancipatrice, libératoire des peuples, des individus, des cultures que nous constituons. À cet égard, pour ceux et celles pour lesquels ça fait repère, je ne partage pas le pessimisme historique d'un Paul Virilio qui décrit ce monde de la vitesse comme un monde de l'angoisse et qui finalement projette dans cette révolution de la mobilité l'ombre de la mort de l'humanité et d'une société prise dans une sorte d'hystérie et d'accélération permanente. Bon, Paul Virilio a écrit sur ce thème quasiment toute son œuvre, qui est tout à fait remarquable et saisissante, mais qui est finalement une lecture sombre de cet avènement de la société mobile. Or, nous voyons sur cette carte qu'il n'y a sans doute pas de bilan strictement positif ou négatif à constater quoi ? Que nous sommes rentrés dans les 10-15 dernières années dans une organisation française, mais elle est aussi européenne et sans doute mondiale, de grappes de territoires, de grappes de villes, et entre les villes, des campagnes, et par ailleurs, ni villes ni campagnes, des espaces dont je reparlerai long, des tiers espaces, mais des grappes assurément qui sont représentées par la carte par des couleurs. À chaque couleur correspond une de ces grappes, qui est attestée par le fait que dans un même ensemble de tâches d'une même couleur, nous savons que les individus circulent quotidiennement pour leur travail, de leur domicile à leur lieu d'emploi, généralement des périphéries vers des centres, mais aussi d'une même périphérie vers plusieurs centres, monsieur dans un côté, madame dans l'autre, par exemple, ou au sein d'un ménage plus complexe, avec des grands-enfants qui circulent aussi, des configurations plus variées. Et l'ensemble de ces circulations dessine une espèce de vaste galaxie d'emplois. Bassin convient plus. On voit bien que c'est plus des bassins, hein, ce sont des groupes, des grappes, des clusters, comme disent les Anglais. Et donc nous avons affaire à un fonctionnement complexe, dont nous ne connaissons pas foncièrement le système, les interactions, mais dont nous voyons les extensions. Donc vous avez repéré d'où je viens, vous voyez que toute ma région, la région Rhône-Alpes, est en fait un seul et même système urbain qui fonctionne de proche en proche par des mouvements pendulaires, les navetteurs, comme disent nos amis belges, intenses, de ville à ville, ou dans chacune des villes, mais non sans connexion avec sa voisine. Vous voyez que tout le nord-est de la France, intégrant une moitié de la Bourgogne, toute la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, est dans la même situation. Et vous voyez qu'il y a en tout 5 grands ensembles de grappes métropolitaines. Une au sud, qui n'est pas que PACA, qui est une moitié de PACA et une moitié de Languedoc-Roussillon, c'est les deux dont je viens de parler déjà. La grande région parisienne est tirée dans un bassin, mais pas la totalité du bassin parisien, et une situation plus limitée à l'image française du Nord-Pas-de-Calais, qui est en fait étendue sur toutes les Flandres. La situation est tout à fait différente dans l'Ouest, où nous avons encore des entités urbaines relativement distinctes, mais la carte est construite sur des données du recensement de 99, ça fait 10 ans déjà, et même si on aura sans doute du mal à avoir des résultats plus frais pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir dans le débat, il est vraisemblable que vous repérez bien que la tache violette de Rennes et la tache verte de Nantes seraient sans doute aujourd'hui, ou si c'est pour aujourd'hui, c'est dans 10 ans, de la même teinte pour la raison que des migrants alternants basculent aussi bien ou basculeront aussi bien d'un côté que de l'autre et que par conséquent ces deux aires métropolitaines n'en font déjà vraisemblablement plus qu'une, de même que Nantes et Saint-Nazaire c'est déjà le cas, Rennes-Saint-Malo, je ne parle pas de Poitiers-Châtellerault qui sont connexes, etc., etc. Donc une révolution de la mobilité qui transforme nos territoires parce que nous avons l'expérience de cette pluralité, parce que nous avons l'expérience du lointain, mais aussi parce que nous constituons dans ces conditions quelque chose qui ne relève plus du bassin, du fameux bassin, dont les politiques publiques se sont abondamment saisies pour nous dire « nous habitons dans des bassins de vie, dans des bassins d'emploi ». On nous bassine un peu avec les bassins, excusez-moi, mais les bassins ne sont plus à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, ce sont des grappes. Donc bon, parlons de galaxies pour rêver un petit peu, mais il va falloir organiser les grappes car nous les vivons quotidiennement. Hein. Et certaines de ces grappes sont sans doute beaucoup plus complexes que nous montre l'image, puisque vous avez la chance ici d'être à 1h30 de Paris. Grenoble c'est 3h10, c'est un avantage essentiel, et par conséquent pour beaucoup d'habitants de Poitiers, la grappe intègre Paris. Alors, deuxième point de cette première partie, on va rester sur le titre juste pour bien saisir le... Merci. Cet homme mobile, cet homme et cette femme, ces groupes, cette société mobile, exerce son expérience de l'espace à travers des parcours, des moyens de déplacement, des collectifs éphémères, c'est le wagon, c'est la voiture 16, c'est la voiture 19, c'est la rame TGV... des morceaux de société qui se constituent, se groupent, se dégroupent, se regroupent, etc. Et des sociabilités qui sont pas négligeables, hein, avec des gens, on a vu ça à la télé tous, qui fêtent leur anniversaire dans le TER, parce que comme ils se retrouvent tous les matins entre grands périurbains pour se rendre en région parisienne, ils finissent par faire connaissance, et bien qu'habitant des territoires très variés, ils habitent les mêmes réseaux, ils habitent la même voiture de TER, enfin de train intercité, et donc on peut aller jusqu'à fêter des événements familiaux entre usagers d'un même réseau. Donc nous avons cette montée d'une organisation sociale par les réseaux qui constitue ce qu'on pourrait appeler la condition sociale de l'homme mobile. On pourrait épaissir beaucoup le propos, j'ai dit que je voulais pas m'étendre sur la première partie, mais il y a des sociologues aujourd'hui dans le monde, des sociologues anglo-saxons en particulier, qui proposent de refonder toute la notion même de société autour de mobilité, autour de la mobilité, estimant que le terme fondateur de Durkheim, qui est plutôt celui de la communauté et de son organisation productive autour du travail, c'est pas qu'il n'est plus vivant, c'est pas qu'il n'est plus structurant, c'est qu'il est un peu essoufflé pour parler de nous, de ce que nous sommes, de ce qui fait nous. Et il est vraisemblable que ce qui fait nous, de ce qui fait des groupes, de ce qui distingue donc des entités dans une société, dans ce magma qui est un collectif, 62 millions d'habitants, etc., 800 millions d'Européens au sens large, et ben c'est peut-être ce rapport à la mobilité et cette existence dans les réseaux, donc cette condition sociale de l'homme mobile. Je ne m'étends pas sur le fait que c'est pas qu'une condition sociale, ce sont aussi des conditions techniques, ce sont des pratiques de mobilité, des pratiques de déplacement, de systèmes techniques. Et j'en viens par cette image au fait que l'articulation entre les réseaux et les territoires n'est pas quelque chose qui va de soi. Et que nous avons ici le nœud du débat politique que nous allons rencontrer ensuite. Alors cette image est tirée d'une bande dessinée de deux frères belges qui sont architectes de formation, les frères Schuiten, et qui ont fait toute une série d'albums passionnants sur des villes imaginaires. Le personnage qui regrette ce qu'il vient de faire, visiblement, puisqu'il se traite lui-même d'imbécile, c'est une sorte d'architecte, vous voyez, c'est un grand architecte. Oui, il a tout à fait l'habit de l'architecte, effectivement. Et il constate que quelque chose s'est mal passé dans l'atterrissage ou le développement du réseau, qui est ce quadrillage artificiel qui s'est surimposé au territoire. C'est une métaphore. On voit la ville dessous, on voit son extension, et puis on voit que le réseau s'est écrasé. Alors, je vous le fais court, mais dans l'album, dont je ne me rappelle plus le titre, mais enfin, peu importe, cet architecte débarque un jour dans son bureau et tombe en arrêt devant un petit cube qui est juste une des petites entités de la pyramide et qui a une taille de à peu près de la forme de 10 cm de côté, et qui s'est ancré dans son bureau, qui est posé sur son bureau, là, il sait pas d'où ça vient, c'est l'apparition du réseau, c'est la métaphore selon laquelle, ben, dans un monde de territoire, un monde urbain, à un moment donné, apparaît le réseau. Alors il regarde cet objet et puis il le pose, bon, en disant bah, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Il le pose un peu de travers sur sa pile de feuilles sur son bureau, et le lendemain il revient, et le réseau a grandi, car les réseaux grandissent. Ils grandissent par les activités qu'on leur donne, il faut garder la métaphore, hein. Ils grandissent par les services qu'ils offrent, et le réseau a grandi et il s'est ancré dans le bureau, il s'est planté dans le bureau, mais il a un peu de traviole. Bon, il essaye de l'enlever, il se coupe, il abandonne, il repart, il revient le lendemain, le réseau a encore grandi, il occupe tout le bureau. Et ainsi de suite, le lendemain, il ne peut plus rentrer dans le bureau parce que le réseau l'a occupé. Et puis, voilà la taille du réseau. Il sort de la ville et il constate que s'il l'avait posé droit, ça aurait été au moins plus satisfaisant à l'esprit. Métaphore pour dire que nos territoires se sont tissés de réseaux, quitte à les déstabiliser, à les bouleverser, peut-être à les pervertir. C'est le TGV traversant, c'est l'autoroute outrageant la ville, c'est le débat du haut débit. C'est la quête de la téléphonie mobile et de la couverture. Bon, c'est tout ce rapport difficile et par conséquent à haute intensité politique à la façon dont les territoires viennent fabriquer la suite de la vie, les réseaux, pardon, viennent fabriquer la suite de la vie des territoires. Donc réseau et territoire, avec, contre, mais jamais sans, à coup sûr. Dernier point, le plus compliqué pour finir cette première partie sur habiter la galaxie des territoires, et on pourrait dire plus précisément, pour chacun d'entre nous, habiter une galaxie de territoires, et donc, autrement dit, je vous pose la question, quelle est votre galaxie de territoires? Quelle est la galaxie de territoires que vous habitez? Quelle est la somme de ces espaces, ces lieux, ces endroits que vous fréquentez tout au long d'une année ou d'une vie, et qui fait votre territorialité complexe et plurielle? Car en effet, dernier point, c'est cette affirmation selon laquelle, contrairement à nos parents ou nos grands-parents, nous vivons un âge contemporain de ce qu'on pourrait appeler donc une territorialité plurielle, donc complexe. Bien sûr que nous sommes tous nés quelque part, bien sûr que nous avons des attaches privilégiées, que nous savons où vivent nos parents, ou pour certains d'entre nous, où ils sont enterrés, et que tout ça a du sens, bien sûr. Et que les racines, l'ancrage, n'a pas disparu dans l'ère de la société mobile et des réseaux. Mais il s'y est ajouté beaucoup d'autres lieux affectifs, patrimoniaux, familiaux, d'expérience dans une vie qui déménage, qui se recompose, y compris familialement, professionnellement, et tout ça crée donc une certaine complexité. Qu'est-ce qu'on fait de cette complexité et comment on se la raconte? Ce point est essentiel parce qu'il va nous conduire à l'interpellation politique. Et pour le poser, j'ai emprunté la métaphore de la neurologie. Parce qu'il y a un grand débat sur le statut de la complexité dans nos sciences dites sociales, nos sciences humaines. Un grand débat qui part de cette confusion entre ce qui est complexe et ce qui est compliqué. Et c'est pas du tout pareil. Voilà, j'ai trouvé ça dans la revue du CNRS, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Voilà une image des dernières avancées scientifiques sur le cerveau. Bon, j'y connais rien du tout, j'ai aucune compétence en neurologie, mais j'ai cru comprendre, en regardant les explications grand public qui sont données, qu'on ne peut pas comprendre les avancées de la neurologie et de cette espèce de géographie de notre cerveau sans accepter le défi de la complexité. Et les chercheurs nous expliquent, nous racontent comment, après avoir repéré les neurones au 19e siècle, puis les synapses, il y a une vingtaine d'années, ils en sont à revisiter le rôle d'une troisième catégorie de cellules, qui s'appelle les astrocytes, qui sont en violet sur l'image, et qui s'avèrent jouer le rôle d'un réseau parallèle dans la distribution des informations entre neurones, voire même, et je vais compliquer un peu le propos, à permettre de refabriquer des neurones, alors qu'on croyait que, vous avez tous appris ça, on naissait avec un stock de neurones, et que ce stock était irrémédiablement destiné à fondre avec l'âge. Eh bien non, il y a une neurogenèse, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous, qui refabrique progressivement, grâce à ce réseau parallèle des astrocytes, une nouvelle quantité de capteurs d'informations et d'émetteurs d'informations. Bref, tout ça pour dire quoi? D'abord que c'est une très belle image d'un territoire, si on veut bien poursuivre la métaphore, y voir des villes, des échanges, des interfaces, des gares, des réseaux, et que c'est complexe, et que ce n'est pas représenté en deux dimensions, sur un plan, sur une carte, avec des hiérarchies simples, que c'est entremêlé, et que c'est pas fini, car nous ne savons que très peu de choses sur le fonctionnement du cerveau, finalement. Pourquoi diable devons-nous accepter le défi de la complexité pour faire progresser la neurologie, et donc la connaissance de l'être humain, et refuser ce même rendez-vous de la complexité pour comprendre l'organisation des sociétés et ce que nous faisons avec nos cerveaux? Nous avons rendez-vous avec la complexité. Nos territoires sont pluriels. Nous accumulons les expériences pour fabriquer un agencement d'espace, de vie, de travail, etc., etc., qui n'est pas simple, parce que c'est la réalité, tout simplement. Et, diapo suivante, de cette analogie, on pourrait tirer encore quelques remarques évocatrices. À gauche, celles qui sont issues de l'article, et puis à droite, celles que les conclusions rapides que j'en tire. Je lis dans l'article qu'Alzheimer, c'est du dysfonctionnement synaptique. C'est-à-dire que il y a de la circulation perdue dans l'image précédente. Il y a des trucs qui ne passent pas entre les neurones. Les synapses, qui sont des cellules qui doivent servir à ça, à connecter les neurones, ne marchent pas. Moi, on m'avait appris il y a très longtemps que Alzheimer, c'était des neurones qui s'effaçaient. Bon, on progresse. Non, on comprend que c'est quand la circulation se perd. Et ça m'amène à penser qu'un territoire sans réseau, ça perd la mémoire. Un territoire sans réseau, ça perd la mémoire. Alors qu'on a beaucoup appris que le territoire est la mémoire. Oui, mais pour qu'il soit mémoire, il faut qu'il y ait circulation. Et voilà, donc le territoire avec le réseau, ça fabrique de l'épaisseur historique et de la durée. Tiens, ça c'est une leçon paradoxale qu'on peut retenir. Ensuite, j'ai donc lu que la neurogenèse se poursuivait à l'âge adulte et que le système se complétait et se réparait dans la durée. Eh bien oui, c'est vrai, dans le territoire, la genèse des points nodaux, des points centraux, des centralités ou des polarités, elle est permanente. Les centralités, ça se reproduit aussi, ça se refabrique parce que les réseaux les refabriquent. Et donc le territoire, il est vivant comme notre cerveau, il fabrique de nouveaux carrefours, de nouveaux points de connexion. Et puis enfin, les neurones, c'est fin 19e, j'ai déjà dit, les synapses, il y a une vingtaine d'années, les astrocytes, voilà, c'est pas des découvertes, mais on revisite le rôle des astrocytes. Bref, ça se complexifie, et non pas ça se complique. C'est-à-dire que c'est la complexité, elle est pas, y a pas de maladie dans cette histoire. Hein. C'est pas une complication chirurgicale, cette histoire, c'est vraiment une histoire de complexification. Eh bien, dérivation pour notre territoire. Notre intelligence du territoire, c'est notre capacité à lire et à traiter, soigner, gouverner sa complexité. Nous ne devons pas chercher à simplifier les choses, nous devons chercher à comprendre comment elles fonctionnent dans cette complexité. Voilà, je n'ai pas voulu, dans cette première partie, apporter des chiffres, des preuves matérielles, sociétales, démographiques, du fait que nous vivons des territoires multiples. J'ai voulu lui donner, à ce constat, que je pense qu'on peut partager dans plein d'anecdotes avec vous, lui donner toute l'ampleur que ça doit avoir au plan de la conception de notre géographicité. Et fort de ce premier temps, je peux donc aborder avec vous ce qui m'intéresse en venant vous voir, à savoir la question du gouvernement. Bon, gouverner la galaxie des territoires, ça va, de mon point de vue, de donner trois rendez-vous. Le premier rendez-vous, j'appelle de l'aménagement des territoires au management de l'espace mobile, c'est un rendez-vous de doctrine. L'aménagement du territoire, c'est-à-dire cette politique qui vise la galaxie des espaces dans lesquels nous vivons, ça se construit d'abord sur un champ de croyance, un champ de conviction. Je vais revenir sur celui dont nous sommes héritiers et je vais dire pourquoi il faut le changer et pourquoi il faut réinventer l'aménagement du territoire pour pouvoir suivre ce nouveau défi de la complexité. On ne vit pas dans une ville, même si on y habite, on y réside, mais on vit dans plusieurs. Et donc, tout ça, ça a des conséquences fondamentales sur la construction politique du bon territoire que l'aménagement vise. Il faut donc revisiter le corps de doctrine de l'aménagement du territoire. Premier point. En allant plus près de l'habitant, de la vie quotidienne, de la matérialité, de la ville qui se fait, il faut aussi inventer de nouvelles politiques publiques. Et je vais prendre l'exemple des principaux rendez-vous de l'urbanisme, de ce qui fait la ville, de ce qui fabrique la ville, en disant ce que sont les nouvelles solutions collectives de cet épanouissement individuel que que nous traquons en permanence dans nos choix résidentiels, nos choix de parcours, nos choix de services, nos choix de recours divers et variés. Et puis j'en viendrai donc au cœur du cœur, mon exposé c'est la fin, sur la nécessaire réorganisation des pouvoirs politiques qui sont, ça vous a pas échappé, toujours territoriaux et parfois ultra-territoriaux, ultra, attachés de façon extrêmement aiguë à un périmètre et donc à une collectivité territoriale, et donc le défi qui est posé à cet attachement par le constat de l'interterritorialité. Alors, premier point, de l'aménagement des territoires au management de l'espace mobile. Voici un exemple de cette nécessité de faire bouger les lignes. Quelles lignes d'abord, avant de parler de l'exemple? Les lignes sont simples, on pourrait peut-être en débattre, mais je les résume à ma façon. On a inventé l'aménagement du territoire, et on a peu ou prou, qu'on soit ou non spécialiste, je sais que vous n'êtes pas tous spécialistes, mais vous êtes quand même empreint de cette culture. On a partagé une vision commune de ce pourquoi nous devons aménager nos territoires. Et je la résumerai en trois mots. Équilibre, autonomie et proximité. Ce sont les valeurs essentielles qui ont fondé après la guerre, en 45, entre 45 et 50, la pensée de l'aménagement du territoire, avec un certain nombre d'hommes politiques, généralement issus de la démocratie chrétienne, et porteurs de valeurs, d'équité, de solidarité, mais aussi, on pourrait dire, de bonnes mesures des choses. Donc, ils étaient attachés, on sait très bien, à rééquilibrer l'espace national entre Paris et la province. Voilà pour l'équilibre, et l'équilibre s'est décliné à très nombreuses échelles, centre, périphérie, ville, campagne, etc. Ils étaient attachés à faire en sorte qu'on puisse vivre et travailler au pays, même si l'expression est venue beaucoup plus tard, mais c'était bien ce qui les animait. Et donc, ils étaient attachés à des valeurs de proximité. Bref, c'était les valeurs qui allaient très bien avec ce monde relativement lent, 45, 50, 55, par exemple, il n'y a pas d'autoroute en France à ce moment-là, d'horizons beaucoup plus limités que ceux que nous connaissons, et organisés sur le principe de l'unicité territoriale, où chacun est dans son territoire. Prenons donc conscience que l'aménagement du territoire inventé dans ces années, il y a maintenant 60 ans, ne peut pas être le corps de doctrine qui nous convient. C'est pas possible. Il faut bien que nous prenions acte de tout ce qu'on a dit dans la première partie pour repenser les valeurs mêmes de l'aménagement du territoire, qui ne peut pas continuer à décliner l'équilibre, l'autonomie et la proximité dans un monde qui fonctionne autrement. Alors, voilà un exemple de cette nécessité de décaler le sujet, de le revisiter. C'est une prospective de la périurbanité. Cet espace périphérique aux villes, constitué dans les 40 dernières années par étalement urbain, systématiquement décrié au regard des valeurs que je viens d'énoncer, il n'est pas dans l'équilibre, puisque en général on utilise plutôt de l'habitat et pas assez d'emplois. Il n'est pas dans l'autonomie, puisqu'il est étroitement dépendant, ces périphéries périurbaines sont étroitement dépendantes des centres. Il est de moins en moins dans la proximité, parce que c'est l'espace de la ville étalée, ça se diffuse, ça pourrit les paysages, et puis je ne vous ferai pas longtemps sur les aspects négatifs de la périurbanisation, parce que c'est un discours extrêmement répandu. Sauf que la périurbanisation, l'espace périurbain, c'est l'espace de nos contemporains, c'est nous, hein, c'est vous, c'est moi j'habite dans un petit bourg périurbain. Ce sont nos trajectoires résidentielles, ce sont nos actes, nos décisions individuelles et collectives. Ce sont l'ensemble des décisions de marché, des décisions politiques, le maire avec son poste, le promoteur avec son lotissement, l'individu avec son accession à la propriété, le grand constructeur automobile avec son marché, etc., etc., qui ont fabriqué cette réalité. Donc, mettons-nous devant et essayons d'imaginer ce qu'elle peut donner dans 30 ou 40 ans en changeant de lunettes, c'est-à-dire en abandonnant provisoirement, on y reviendra peut-être, mais les notions extrêmement vertueuses, mais plus à l'ordre du jour que j'ai évoqué, équilibre, autonomie, proximité. Alors je vous le fais très très court, mais voilà, quatre images d'un périurbain de demain. Dans l'image qui est en haut à gauche, on se fait peur, mais on se raconte une histoire très très possible. Dans le périurbain de demain, il y aura des voitures électriques. Les solutions à l'impératif écologique que nous savons tous devant nous, la nécessité de consommer moins d'énergie, seront trouvées par les individus dans des cadres individuels. la maison individuelle serait, dans ce scénario, la meilleure solution technique à la production de l'énergie pour le ménage, à une saine consommation de ses ressources, notamment à l'eau, et à la production nécessaire à son véhicule. Pourquoi tout cela ? Parce que les découvertes technologiques à 20, 30 ou 40 ans nous permettent, par énergie solaire et autres, de réaliser ces réponses individuelles autour du logement et d'y développer l'ensemble des solutions aux défis que nous connaissons aujourd'hui. Résultat, la périurbanisation devient un phénomène absolument général, puisque ça n'est plus du tout la limite que nous évoquons aujourd'hui en termes d'effets de gaz à effet de serre, etc. etc. C'est au contraire la solution trouvée par nos contemporains, nos futurs contemporains, pour occuper l'espace dans toute sa générosité, car il n'y a pas de limite écologique à le faire dans le cadre technique qui est ainsi inventé. Alors, discours dramatique à l'heure du Grenelle de l'environnement, discours totalement opposé à tous les schémas de planification actuels, et discours politiquement très incorrect, puisque la périurbanisation actuellement est l'ennemi public numéro un de l'aménagement. Eh bien, voilà, changeons de lunettes, renouvelons le corps de doctrine, imaginons un monde dans lequel les réponses individuelles construisent les solutions collectives. Et reconnaissons que dans ces conditions, la ville diffuse, qui peut parfaitement exister socialement, hein, qui n'est pas la ville des isolats, des ménages isolés, la ville diffuse a une certaine capacité à fabriquer l'espace de demain. Alternative tout à fait différente, l'image qui est en dessous, en bas à gauche, dit non, dans 20-30 ans, ce ne sont pas les solutions techniques qui transformeront notre rapport à l'espace et qui refonderont par conséquent la doctrine de l'aménagement du territoire, c'est notre rapport à la nature. La grande question, dit ce scénario prospectif du périurbain, c'est comment nous organisons le contact, l'expérience, on pourrait presque dire aussi parfois la consommation, consommation modérée et non épuisante de la nature. Et le scénario dit par la périurbanisation. Où est-ce que les citadins trouveront la nature? Où est-ce qu'ils iront la fréquenter? Dans un périurbain organisé comme un rivage, d'où l'image. C'est-à-dire un front maintenu, un front préservé, un front contenu, pas un front envahissant, pas un front d'armée, mais une sorte de limite devant la nature, devant la forêt, devant l'espace agricole, devant le littoral, devant la montagne, devant l'espace sauvage, devant l'espace protégé, etc. etc. Le périurbain, c'est le rivage. Et la périurbanisation, c'est l'organisation des rivages. Et pour qu'ils tiennent, eh ben, on les labellise, on les reconnaît, on les investit de politiques soignées, de politiques collectives soignées. Bref, on fait de la périurbanisation le nouvel espace vertueux. Et non pas du tout ce que nous pouvons nous accorder aujourd'hui à reconnaître en lui, à savoir plutôt l'espace d'une certaine défaite. Défaite de l'architecture, défaite de l'urbanisme, il y en a d'autres encore éventuellement. Mais enfin, disons, pas vraiment la chose dont nous sommes la plus fiers dans nos paysages. Voilà, un scénario qui nous bouleverse. Bon, je vous fais pas les quatre parce que je sens que je suis en train de m'égarer, mais on y reviendra si vous le souhaitez sur cette diapo. En tout cas, le voilà, mon tiers-espace. Mon espace tiers, qui n'est ni la ville, ni la campagne, dont je peux parler autrement que comme d'une défaite, la défaite de l'aménagement. Ben oui, défaite, puisque c'est pas le même corps de doctrine. Donc évidemment, quand j'évalue ce qui se passe avec les clés d'hier, ça marche plus, donc c'est la défaite. Mais si je regarde ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer avec d'autres lunettes, je peux raconter ça. La question n'est pas de savoir si c'est positif ou négatif. Il y a dans ces scénarios le bon et le mauvais. En tout cas, je peux le raconter en des figures nouvelles qui m'interpellent sur ce que pourraient être les catégories de notre galaxie de territoire demain. Des nébuleuses, des rivages, j'en ai parlé, des synapses, tiens, j'ai repris l'image des synapses pour parler de l'interterritorialité, ou des réserves, bon, on reviendra pour les décliner, mais quoi qu'il en soit, des territoires qui sont ni à proprement parler strictement des villes, ni purement les campagnes rurales héritées de notre siècle agricole, ou de nos deux siècles agricoles, productivistes, mais quelque chose entre les deux, qui se mélange et qui répond à d'autres fonctions. Une troisième catégorie, j'ai besoin du tiers-espace hybride pour parler de la réinvention de l'aménagement du territoire. Deuxième point, j'ai besoin, et donc je descends en échelle, pardon, j'ai besoin de réinventer aussi l'urbanisme. Je reviens, sinon aux villes, parce qu'il n'y a pas que les villes qui sont l'objet de l'urbanisme, un village est aussi l'objet d'une certaine politique urbaine. On n'a pas trouvé le mot pour le désigner, mais refaire la place du village, implanter un équipement public, éclairer la rue, fabriquer une extension d'un village, c'est l'urbanisme. Donc ne vous me prenez pas sur le sens de l'urbanisme dans ma bouche. Et j'ai besoin donc de revenir plus finement pour gouverner la galaxie des territoires. Et donc je suis dans les contenus pour l'instant, avant d'en revenir à l'organisation politique, d'en revenir à des nouvelles solutions. Alors ces nouvelles solutions... on peut mettre l'image parce que ça sera plus rigolo d'imaginer. Ces nouvelles solutions, elles sont certainement très nombreuses et ma proposition est très, très limitée, très limitative, mais c'est un choix. Je pense qu'elles désigneront trois grands sujets qui devraient, et là aussi on est dans la doctrine, qui devraient constituer l'essentiel de l'agenda de ceux qui voudraient gouverner la galaxie des territoires. Le sujet des natures, je dis pas de la nature, mais des natures, au pluriel, le sujet des déplacements et le sujet des services. Évidemment, sous les yeux, on a des quartiers qui sont peut-être, oui, à droite, c'est à Rennes, certainement plus périurbain. À gauche, je ne saurais pas vous dire dans quelle ville c'est, parce que c'est un collègue du Nord-Pas-de-Calais qui m'a envoyé cette photo, mais je ne sais pas où est-ce qu'il l'a prise exactement. Bon, on a des quartiers de banlieue, à gauche c'est vraiment du périurbain, du lotissement. Et donc le sujet semble le logement, l'habitat. Mais je pense que derrière ce grand débat que nous savons qu'il existe, habitat collectif, habitat individuel, habitat groupé, habitat diffus, et vous voyez qu'il y a de l'invention dans le périurbain parfois, il y a des enjeux plus essentiels. Quelque part, j'ai tendance à penser que les solutions de la forme urbaine sont en train d'advenir. Celles-là sont peut-être pas les meilleures, hein. Le lotissement en coquillage aboutit à un merveilleux cul-de-sac, qui est une belle métaphore sociale aussi. Mais après, on fait demi-tour et on sort de chez soi. Mais on est assuré dans la rue de ne voir percer personne d'autre que son voisin. Ça, c'est sûr que pour faire la ville, si on la fait comme ça, c'est une superbe image de l'enfermement. Mais bon, il y a des erreurs dans la production urbaine. On en connaît à d'autres époques. En tout cas, la forme, l'habité, ça, à mon avis, on est en plein dedans. Le rendez-vous avec la nature, l'organisation des déplacements, la société des services, là par contre le rendez-vous est énorme et je ne pourrais pas non plus m'étendre trop, mais je pense qu'il y a, à propos de la nature, à inventer une politique que on pourrait appeler, les métaphores servent toujours à nous faire rêver, du naturbanisme, dans la mesure où vraisemblablement cet urbanisme qu'on doit appeler de ses voeux dans ces territoires intermédiaires qui viennent colmater la galaxie des territoires et qui vient y contribuer, doit mettre à l'ordre du jour non pas la conception des pleins, comme nous le voyons sur l'image, mais la conception des vides. Des vides, c'est très embêtant, et c'est des vides qui sont pleins, ils sont pleins de ressources, ils sont pleins de nouvelles ressources précieuses, qui sont la nature justement, et qui sont, nous le savons tous, devenus la condition essentielle de notre survie, belle vie, bonne vie, enfin le contraire de la mal vie, etc. C'est-à-dire vraiment le cœur de la rencontre politique, on peut même dire, hein, avec des élections qui en font un enjeu central. Qu'est-ce que j'appelle un naturbanisme ? J'appelle un urbanisme qui prend en compte la diversité des fonctions de la nature et qui, comme elle le fait, l'urbanisme, il le fait pour les autres fonctions, habiter, travailler, se récréer, affecte les espaces de nature dans la ville, leur trouve un rôle et le garantit. Et je vais très très vite, la nature, j'en vois six, je vois six catégories de nature, c'est suffisamment élaboré pour fonder une politique de la nature dans la ville, donc un naturbanisme. Il y a la nature qui est dans mon assiette, et elle est majeure, et on a tous très très envie aujourd'hui de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, quelle qualité ça a, quelle traçabilité ça a. Et c'est pas fini, car nous avons connu quelques grandes crises sur ce sujet. Je pense que d'autres se préparent. Et la montée de l'exigence de cette nature alimentaire est devant nous à coup sûr et donne des rendez-vous de politique publique majeurs qui tarderont pas à faire de la question de l'alimentation et de l'agriculture, donc, une des compétences essentielles des communautés urbaines. Pour l'instant, une communauté urbaine, une communauté d'agglos, ça devrait pas s'occuper d'agriculture. mais quand ça va s'occuper d'alimentation, il faudra que ça s'occupe d'alimentation, ça changera le regard. La nature qui est dans mon assiette, il y a la nature qui est sur mon balcon ou dans mon jardin. Cette nature-là, c'est une nature, ou plus loin, dans la forêt, c'est la nature récréative. C'est une nature quasi domestique dont j'ai besoin pour constituer mon cadre de vie. C'est pas la même, je la mange pas, je lui donne d'autres valeurs, je l'organise autrement. Il y a la nature qui constitue la simple vue et qui est un paysage, qui constitue en quelque sorte mon référent culturel et que je ne suis pas obligé de fréquenter, de pratiquer comme la précédente, mais que je dois mettre en scène. Et il n'est pas possible d'imaginer un espace qui se priverait de la mise en scène de la nature. Ça conduirait directement à une société très très démoralisée et très rapidement dysfonctionnelle. Il y a la nature qui met à notre disposition l'eau, l'air et les autres sources que nous voulons bien nous mettre à disposition dans la qualité que nous allons lui donner. C'est la nature des ressources qui est en quelque sorte la nature métabolique, celle qui nous insère dans un cycle de vie et dont à laquelle nous devons porter une attention énorme, y compris donc la nature météorologique du temps qu'il fait, et la nature du vivant non humain. Et de cette relation que nous acceptons de reconstruire avec l'ensemble de la biosphère, qui ne rentre pas dans les précédentes et dont nous avons trouvé le mot de l'exigence, c'est la biodiversité. Pourquoi tout d'un coup voulons-nous absolument garantir la biodiversité ? Débat complexe, au moins pour une raison simple, qui est qu'il existe sur cette planète un vivant non humain dont nous avons besoin pour savoir qui nous sommes. Et ça s'organise dans les territoires, et place par place dans cette galaxie des usages que nous avons. Et puis, dernière figure de la nature, et c'est peut-être la plus intéressante, il y a la place du sauvage. Il y a la nature sauvage, qui est certes une part du vivant non humain, mais qui est cette part incontrôlable, et qui doit le rester. Et je pense aussi qu'on peut comprendre assez rapidement qu'il n'y a pas de civilisation durable sans une place pour le sauvage. Pour ce qui est sauvage. Voilà, donc je décris pas, mais je pense qu'un naturbanisme est un urbanisme qui trouve une place pour chacune de ces six catégories de nature et en fait l'objet de politiques publiques dans un cadre territorial qui, évidemment, ne peut pas les avoir tous sous le coude, partout, mais peut les organiser de place en place, d'où la galaxie, et d'où la nécessité de gouverner ces espaces de nature dans des ensembles où nous allons les chercher en bas, sur le balcon, mais aussi à 60 km, parfois à 300, sur le rivage, et dans un ensemble d'usages qui ne sont plus si problématiques que ça, car mobilité, et je renvoie à la première partie de l'exposé. Bon, vous me pardonnerez de pas développer les déplacements et les services, et je suis tout ouvert à une rediscussion sur ces deux autres rendez-vous de l'urbanisme, mais je voudrais m'arrêter donc pour finir plus longuement sur la grande interpellation politique que toutes ces idées généreuses qui font de la place au réseau, au tiers-espace, à la réinvention de l'urbanisme, plus tout ce que je n'ai pas dit sur la gestion des temps, la solidarité des services, la combinaison des modes de déplacement, tout ce que ces politiques publiques renouvelées et ces corps de doctrine changés donnent comme rendez-vous au monde politique au sens large. Pour moi, le monde politique, peut-être un petit peu simple, mais je vais le construire sur un trépied, l'élu, l'administrateur, l'administratif, l'administration, le professionnel de la gestion des territoires, donc celui qui concrètement est dans les collectivités territoriales, ici, dans cette maison, comme dans d'autres, conseil général, conseil régional, plus toutes les structures qui, publiques et parapubliques, contribuent au fonctionnement, il y a une profession du territoire. Et c'est donc mon deuxième pilier. Puis il y a un troisième pilier, c'est le citoyen. Il est habitant, il est usager, mais il est surtout citoyen, il est les trois à la fois. Et donc, je passe à travers ces trois catégories pour poser la question suivante. Ces trois catégories, elles se sont entièrement construites historiquement, et c'est très bien, dans leur rapport à un territoire. Un élu est représentant d'un territoire, c'est dans ce cadre-là qu'il est élu, c'est à ce territoire qu'il rend des comptes, c'est sur ce territoire qu'il lève l'impôt, c'est dans ce territoire qu'il exerce ses compétences. C'est une relation quasi génétique, en tout cas qui est souvent très aiguë, parfois très affective. On dit de certains élus que ce sont des patrons de territoire, ou ce sont des enfants du pays, quand on veut être plus gentil. Mais enfin, disons qu'on estime qu'ils ont une relation très, très sensible, très charnelle à leur espace. Parfois, on aimerait d'ailleurs qu'il baisse un petit peu en intensité. Mais bon, en tout cas, c'est ça. Et si on réfléchit à l'origine et aux causes de tout cela, il faut reconnaître tranquillement que c'est une ligne directe et quasiment ininterrompue avec la féodalité. C'est-à-dire que, certes, c'est dans un cadre démocratique. Certes, ce sont nos élus. Il y en a plein dans la salle. Et je l'ai été aussi, donc on peut en parler tranquillement. Mais n'empêche que ce rapport exclusif d'un homme à un territoire, même dans un jeu démocratique, renvoie à cette relation qui était celle du fief, de l'homme dans son périmètre. Bon, soit. L'administration, même topo, hein, elle est une organisation technique dont j'espère n'outrager personne en disant que son modèle fondamental est l'armée. Et son modèle fondamental est l'armée. C'est la hiérarchie et l'autorité, avec une division des tâches. Alors, on peut pratiquer une armée de façon, comment dire, très humaine, très intelligente. Si, si, je vous assure. Donc l'administration, c'est pas forcément la caserne. Mais le modèle de l'administration, j'affirme, au risque de me faire rappeler alors par un collègue de la territoriale, que c'est l'armée. Et il y a une grande efficacité à l'organisation des armées administratives dans les territoires, qui généralement ont pris le modèle sur l'État pour organiser des directions avec des services, des sous-services. Et quand on se pointe dans une collectivité et qu'on demande à un individu qu'est-ce qu'il fait, il vous dit « je suis N-4 ». Ça veut dire qu'il est 4 niveaux en dessous du DGS. Voilà. Donc ça aide tout de suite à savoir combien de temps il mettra à voir sa note de proposition redescendre du sommet pour savoir si oui ou non il peut le faire. En général, c'est 3 mois, parce qu'il faut que ça monte par N-3, N-2, N-1, etc. Puis après, ça redescend. Non. Alors, il faut qu'il recommence, etc. Enfin, c'est l'armée, quoi. Bon, je plaisante, parce que c'est fatigant, sinon, mais l'administration se construit, elle aussi, dans le cadre du périmètre. Ses valeurs sont la hiérarchie et le rendre compte à l'autorité. De même que l'élu rencontre à ses électeurs, le salarié professionnel ou missionné rencontre à son patron de territoire, à son DGS, et il n'a pas de compte à rendre à d'autres administrations territoriales englobantes, proches, voisines, etc. Et le citoyen dans tout ça, le citoyen, reconnaissons que le discours qu'il affectionne dans l'exercice de la démocratie, c'est le discours de la proximité. La compétence qu'il met en œuvre pour dire « je lève le doigt et je vous dis, moi, du haut de ma légitimité citoyenne, que ceci, que cela, et je demande, j'existe, je propose, j'interviens, je pèse, je veille, je suis vigilant », c'est la proximité. C'est l'exercice de mon expérience quotidienne, c'est parce que je sais, j'habite là, je peux vous le dire, je l'ai vu, hein, je sais de quoi je parle, j'en suis. Donc c'est ça, hein, c'est la démocratie de proximité. Alors on a donc un élu qui est dans la légitimité du périmètre, une administration qui est dans le sens de la hiérarchie, et un citoyen qui est dans la démocratie de proximité. Et vous prenez ce monde politique ainsi constitué, et vous le projetez dans cette société de la mobilité, des territoires multiples, des horizons entrecroisés, de la pluralité, du « je suis à Paris le matin, je suis à Poitiers l'après-midi, je vais dormir à Kéo et je reviens et je me balade partout et je suis sur 2 villes et je suis sur 3 régions. Et... » Alors tout le monde, non, d'accord, pas tout le monde, pas encore tout le monde, bien sûr. Jamais tout le monde d'ailleurs, aucun phénomène n'est vrai pour toute la société. Mais quand même, pour de plus en plus de gens, je suis pas en train de décrire le mode de vie des happy few, je parle pas de 10% des gens. Je parle des gens qui blindent les TGV, parce que les TGV sont blindés. Les TGV sont pleins. Ils sont pas pleins des mêmes gens, d'ailleurs. Le matin, c'est 95% d'hommes en costard-cravate avec des attachés case. Mais en journée, il y a plein d'autres gens variés qui sont sur les mêmes mouvements. Bon, alors, cette société en mouvement, est-ce qu'elle peut se satisfaire d'un monde politique construit sur les territoires cloisonné, hiérarchisé, exclusif et autonome? Évidemment, si j'insiste autant sur les choses, c'est pour dire non. Et c'est pour dire qu'on a un rendez-vous énorme, les élus, les administrations et les citoyens, pour fabriquer un monde politique interterritorial, dont le sens profond serait de dire il va falloir partager ce que nous pensons avoir pour chacun de nous, en propre, qui est une sorte d'ersatz de souveraineté, sur le modèle national. Vous ne trouverez pas un élu qui soit maire, président de communauté, conseil général ou conseil de président pour dire « je veux, je décide, parfois j'exige, hein, Et je suis donc dans l'exercice d'une certaine capacité propre. Alors qu'il sait très bien, ce collègue, qu'il n'en a pas de capacité propre. Qui n'a que la capacité de contractualiser, rentrer dans une procédure, négocier avec d'autres, trouver l'appui de l'État, coordonner son action avec le voisin, et que, à coup sûr, l'efficacité de son système de transport, son service à la population, son ramassage des ordures, son développement économique, sa politique culturelle, et j'en passe, et des plus importants, tient à la façon dont son action se combinera avec le conseil général, le conseil régional, la commune d'à côté, l'État, l'Europe, le pays, etc., etc. L'efficacité politique, elle est dans la coordination. Elle est dans les liens, elle est dans les articulations, elle est dans les coopérations, elle est dans les négociations. Tous les mots que je trouve, que nous trouvons directement dans un vocabulaire constitué, qui est celui des relations internationales. Et d'ailleurs, que nous disent nos puissants aujourd'hui même, ils nous disent, chacun d'entre nous, nous ne pouvons rien. Contre la crise, nous sommes très démunis. Et la seule solution est dans notre capacité de coordination. G20, G6, G ça. Non. Bon courage, mais n'empêche que c'est là qu'est le rendez-vous. Assurément, le rendez-vous est là. Hein. Après, on jugera sur pièce, et quelque part, on devrait voter pour des individus capables d'organiser ça et de faire avancer des solutions collectives dans ces scènes. Mais ce qui nous paraît tout à fait admis au plan international l'est relativement peu au plan local, où nous n'avons pas identifié ce que devrait être le devoir interterritorial. Chaque élu devrait l'être pour ses capacités d'action, d'efficacité avec les autres, et non pas pour ses propres pouvoirs qui sont systématiquement systémiques, hein, qui sont donc partagés dans des politiques publiques extrêmement complexes et tout articulées. On prendra dans le débat, si vous voulez, des exemples très concrets sur un collège, qui gère un collège, qui intervient dans un collège. Le conseil général lève la main en disant « c'est moi ». Mais en réalité, quand on regarde dans le détail, tout le monde y est, de la région à la commune, en passant par l'État, bien sûr. Et donc, un objet de politique publique est toujours un objet multi-acteur. Il faut que nos élus, que le monde politique d'une façon générale, devienne porteur de cette mission interterritoriale. Une chose va dans le bon sens, une seule. On en débattra certainement dans le rapport Balladur, cette notion de mandat fléché, pour des mauvaises raisons, d'ailleurs. Pour de très mauvaises raisons électoralistes, mais l'idée qu'un élu le soit à deux niveaux, et il y a deux propositions là-dessus, c'est département-région, et puis par ailleurs commune-communauté, est une bonne idée, parce qu'elle implique que le mandat ne soit pas celui de l'exclusivité territoriale, mais celui de l'engagement sur le lien. Je m'engage à articuler deux niveaux de territoire, et à réguler deux niveaux d'administration. Voilà. Ça, c'est un mandat politique d'avenir, c'est sûr. Bon. Que doit faire l'administration? Elle doit organiser des administrations de mission. C'est-à-dire qu'elle doit évidemment fabriquer des collectifs professionnels empruntant à plusieurs niveaux d'administration constituée pour pouvoir résoudre les problèmes. Comment vous voulez gérer les transports ferroviaires intercités en les maintenant uniquement dans les mains de la région qui finance beaucoup de choses? Alors qu'il n'y a de sens dans cette affaire qui implique des gares, des plateformes multimodales de bus, et toute une série d'autres services autour de l'acte de mobilité, il n'y a de sens dans cette affaire que si on combine les efforts des collectivités sur le fait que chaque matin, un individu lambda monte dans un train, passe d'une gare à une autre, puis monte dans un bus, dans un tramway, puis etc., etc., et interpellant ainsi de multiples compétences, de multiples collectivités, qui doivent donc constituer des administrations croisées. Elles le font d'ailleurs, pour information, déjà dans les politiques de la ville, ça s'appelle les maîtrises d'ouvrages urbaines sociales, les MOUS, et il serait intéressant de multiplier l'organisation des polyvalences et des administrations partagées avec des groupes qui seraient composés de 20% de techniciens communaux, 20% de techniciens départementaux, etc., etc., travaillant ensemble, et donc rendant des comptes à plusieurs niveaux d'administration. Et le citoyen, on peut et on doit certes l'entendre sur son rôle de proximité, son expertise d'usager, hein, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, sa capacité à se prononcer sur l'enjeu local, mais il nous dit lui-même par ailleurs, dans de très nombreux organismes politiques, militants, en réseau et parfois de très immatériels sur la toile, qu'il a quelque chose à dire sur la planète. Et il ne manque pas de le faire depuis au moins 20 ans, qui sur la dette et son non-remboursement, qui sur la planète justement en tant qu'objet écologique, qui sur bien d'autres sujets encore. Et par conséquent, il s'agit d'organiser des forums, des cadres, des organismes, des conseils locaux, mais locaux planétaires. C'est-à-dire des conseils, des groupements, des forums, des scènes, dont le sujet ne soit absolument pas limité à un périmètre et à un territoire, mais à la chaîne de ces échelles que je viens de dénoncer. En faisant en sorte que sur tous les sujets qui sont utilisés, les transports, celui qui va certainement devenir le sujet numéro un des conseils locaux de développement, les plans climat-énergie, le citoyen puisse à la fois dire ce qu'il en est ici et ce qu'il en est plus globalement, ce qui implique de sa part qu'il ne le dise pas tout seul dans son coin, mais dans des réseaux de citoyens, des réseaux internationaux. Donc le citoyen, son rendez-vous n'est pas beaucoup plus simple que l'élu ou que l'administration territoriale, parce qu'il a lui aussi à fabriquer des réseaux planétaires, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, au moins internationaux, certainement à distance, qui seront à coup sûr le sens complémentaire de son expression locale. Autrement dit, avoir raison ici à Poitiers, c'est sans doute une bonne chose pour une intervention citoyenne, mais ça n'a véritablement de portée que si en même temps on a raison quelque part ailleurs avec d'autres citoyens qui agissent dans le même sens, dans une action politique qui se visibilise et qui pèse sur la scène politique à d'autres échelles. Donc agir local et agir global, contrairement à la célèbre formule qui consistait à dire il faut agir local et penser global, en fait il faut agir local et global, et vraisemblablement penser aussi les deux comme ça. Donc il faut tout simplement penser, agir local, global. C'est pas très simple, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres voies. Et ceci m'amène à ma conclusion sous forme de rendez-vous. Habiter et gouverner la galaxie des territoires, c'est un sujet difficile. Vous m'avez écouté très très attentivement, je vous remercie, mais j'ai conscience d'avoir utilisé des mots... C'est pour ça que j'ai fait un effort, j'ai fabriqué à la demande de Sylvain Allemand un petit glossaire avec des définitions que je vous demande de ne pas faire circuler, parce que le pire pour un universitaire, c'est de définir les choses. Parce que dans définir, il y a finir. Donc moi, j'ai défini les choses. Donc s'il vous plaît, vous laissez tous les papiers à la sortie, parce que je ne voudrais pas que je laisse entendre que moi, j'ai la réponse. J'ai pas la réponse, mais enfin, il y a des mots comme ça, un peu compliqués, comme complexité. Voilà, j'ai marqué cinq lignes sur complexité, qui sont certainement très, très, très contestables. Bon, c'était un sujet difficile que le nôtre, mais c'est un sujet éminemment contemporain. On est dans un cycle de prospective sur la façon de penser la ville. Voilà, je pense qu'on ne peut pas en rabattre trop. Vous savez, il y a une plaisanterie d'un humoriste qui dit « l'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Et là, on pourrait dire « la complexité, c'est ardu, surtout dans le détail ». Effectivement. Bon, mais face à la complexité, il y a malheureusement que deux attitudes. Il y a la voie du rejet qui consiste à dire « ouais, ok, merci ». Simplification, s'il vous plaît. Exclusivité, donc là, tous ces mélanges, je vous dirai ce que c'est après. Et hiérarchie. Simplification, exclusivité, hiérarchie. On pourrait même rappeler fusion. Bref, voyez tous ces mots-là qui nous remènent en arrière. Elles sont dans le rejet de la complexité. Ce sont les mots clés du rapport Balladur, du rapport du comité Balladur. Simplification, exclusivité, hiérarchie. Retour au temps passé. Ce monde nous fait peur, il est complexe. Oui ? Tout autant que le cerveau. Donc bonjour à l'intelligence, quelque part. C'est, hein, voilà ce qu'il faut se dire. Alors ça, c'est la voie du rejet, et malheureusement, je constate avec vous, c'est mon point de vue, qu'elle est celle qui a été prise par les travaux de ce comité, composé de gens très intelligents, très expérimentés, je le dis sans aucune ironie, de positions politiques relativement variées, et qui pour autant, de mon point de vue, n'ont pas entendu ce qu'était ce rendez-vous avec la galaxie de nos territoires, pas du tout. Et puis il y a la voie du projet, parce que les galaxies, c'est chacun des nôtres, c'est aussi les galaxies collectives, c'est ici à Poitiers d'identifier la galaxie qui fait l'objet d'un projet politique, celle de vos élus, celui de vos élus, de tous vos élus, pas que d'un, hein, qui ne soit surtout pas se dresser comme maître de la galaxie, il n'y a pas de maître dans une galaxie, mais donc d'une capacité collective à énoncer ce qu'est l'agencement des territoires dont on a besoin, certainement Poitiers-Châtellerault, mais quoi encore, pas que des villes, mais aussi les interstices, les tiers espaces, les campagnes, les lointains, à négocier cette construction, d'abord dans les représentations qu'on en a, à les agencer, à les faire admettre, à en convaincre les autres. Tu fais partie de ma galaxie. Hein, quand Rennes va voir Saint-Malo en disant tu es mon avant-port, parce que Saint-Nazaire l'a dit à Nantes, ou dans l'autre sens, eh ben, ça passe pas complètement la première fois, bien que ça soit judicieux. C'est une pure invention. Saint-Malo n'a jamais vraiment été l'avant-port de Rennes, mais enfin, en tout cas, ça peut fonctionner, c'est sûr. Hein. Et ça ferait donc deux binômes de villes qui ont des capacités dans ces conditions d'alliance tout à fait considérables. Et on n'est pas très loin de la Bretagne, vous imaginez ce que l'ensemble Saint-Nazaire, Nantes, Rennes, Saint-Malo commence à dessiner, surtout avec un aéroport international en plein milieu. Donc, des galaxies à identifier, des galaxies à négocier, des galaxies à réguler, des galaxies pour tous. Et aussi, pour chacun d'entre nous, pour éviter qu'il reste dans ces galaxies des isolats, des perdus, des assignés à résidence, des pauvres qui seraient en quelque sorte les victimes de l'histoire de l'interterritorialité. Bon, voilà, ça c'est la voie du projet et c'est celle que je vous recommande pour votre activité. Merci.
Martin Vernier, vous ne partirez pas d'ici sans faire une représentation du même genre de l'agglomération de Poitou qu'on affichera à l'occasion de la prochaine séance. Hein. J'ai trouvé ça plutôt magnifique. Alors, comme le soufflait Yves Jean, dans l'oreille, Yves Jean, auquel je rends hommage, nous rendons hommage, car c'est lui qui a soufflé le nom de Martin Vanier dans le creux de l'oreille des organisateurs, et qu'il en soit remercié, je me permets de le dire avant même de recueillir vos questions. Et Yves Jean me faisait observer tout à l'heure que votre intervention est complémentaire, et voire même plus que complémentaire, est presque une alternative par rapport à celle qui nous a été proposée il y a quelques semaines par Jacques Lévy, en ce sens où Jacques Lévy, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, nous avait décrit une renaissance urbaine dans laquelle il voyait un retour du balancier par rapport à la périurbanisation. Vous prenez au sérieux cette périurbanisation et vous montrez dans quelle mesure elle participe d'une transformation de nos rapports au territoire. Vous nous en montrez toutes les potentialités, y compris à l'heure du développement durable. J'avoue que j'étais un peu inquiet, je m'attendais déjà à des interrogations du genre, mais écoutez, cette mobilité que vous encensez pourra-t-elle survivre à l'ère de la résorption de nos ressources naturelles, etc. Vous nous avez, avec beaucoup d'élégance, coupé l'herbe sous le pied. En tout cas, on va voir si vous avez complètement convaincu. Mais pour ma part, avant de donner la parole au public, je ne pouvais pas m'empêcher de vous dire que ça m'a même évoqué, et je suis très sérieux, Édouard Glissant et son idée de créolisation, et à travers ça, cette idée que nous serions dans l'ère de l'hybridation et non plus dans l'opposition, comme vous l'avez bien illustré, et en offrant une belle illustration à travers cette description des mutations qui affectent nos territoires. Et moi, personnellement, je me suis pleinement reconnu aussi dans ces nouveaux rapports. J'étais à Paris ce matin, ce soir à Poitiers, je pars à Alençon demain, je découvre qu'il faut 4 heures pour aller à Alençon, bref, je ferme la main. Donc je me suis pleinement reconnu, et tout en me demandant si ce scénario concernait l'ouvrier ou l'employé qui prend sa voiture pour aller au travail, est-ce que lui, certes, ne vivait pas cette mobilité, mais sous un mode plus contraint. Mais vous l'avez bien pointé, donc je ne reviens pas là-dessus. Faites-moi penser simplement de vous rappeler cette question que j'ai à l'esprit, elle concerne la citoyenneté. Jusqu'à quel point ce territoire, ce tiers espace questionne, remet en cause la citoyenneté telle qu'elle s'exerce sur le plan local, et remet en cause cette idée de cette équation citoyenneté égale possibilité de vote. Est-ce que dans ce que vous nous avez dit, il y a aussi cette idée que dans l'élaboration des projets qui peuvent affecter une agglomération comme Poitiers, pourraient être sollicités des gens qui ne vivent pas forcément dans cette agglomération, mais qui y travaillent, qui n'y vivent pas, qui n'ont donc pas le droit de vote, de peser sur les décisions en principe. Vous nous le direz, mais je préfère pour le moment recueillir les questions, les réactions de la salle, en gardant à l'esprit que nous avons également dans la salle Jeanne Renaud, qui jouera ce rôle de veilleur, avec l'idée de veiller à ce que l'on articule bien vos propos avec la situation propre à l'agglomération de Poitiers. Mais auparavant, si vous le voulez bien, Jeanne Renaud, quelques questions de la salle. Il vous suffit de lever le bras comme monsieur, et un micro en principe devrait vous parvenir. On va vous le faire. Grâce à Virginie, qu'on remercie également au passage, c'est plus qu'une cheville ouvrière avec Anne Bonnefoy dans la préparation de ce cycle.
Bernard Carlot, je suis là en tant que citoyen de base, mais par ailleurs, dans mes moments actifs, je suis directeur de la Caisse d'allocation familiale. Et je voudrais vous remercier. Vous avez avec compétence, talent, dit ce que je ressens intuitivement et que je m'acharne à défendre dans les caisses d'allocation familiale, puisque le même discours hiérarchisant, je ne sais pas si ça existe, et simplificateur prévaut, où on dit ben, il faudrait faire un peu de ménage, savoir qui s'occupe de la petite enfance, qui s'occupe des jeunes, qui s'occupe de la citoyenneté, etc., que les caisses d'allocation familiale ne fassent pas tout, mais qu'elles obtiennent, ce qui me paraît une aberration démocratique, d'être chef de file à certains moments sur certains sujets. Et je n'arrête pas de dire, mais ce qu'il faut faire, c'est être en réseau avec les autres, c'est apporter notre compétence et bien souvent servir de plateforme de rencontre entre des élus qui ne sont pas forcément de la même tendance politique.